Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. À la veille d'une rencontre entre les présidents turcs et américains à la Maison Blanche à Washington, gros plan ce soir sur les relations qu'entretiennent les deux pays. À la fin du mandat de Barack Obama, ils avaient viré à l'orage ces relations États-Unis et Turquie s'opposant sur plusieurs dossiers. Il y avait l'extradition du prédicateur Fethullah Gulen et puis surtout, il y a la question du soutien aux milices kurdes en Syrie, les YPG qui luttent contre le groupe État islamique. L'arrivée à la présidence des États-Unis de Donald Trump avait suscité l'espoir d'Ankara qui souhaitait ouvrir une nouvelle page dans les rapports entre les deux pays. C'était sans compter sur la décision de Donald Trump de livrer des armes aux YPG qu'Ankara considère comme terroristes. Cette annonce a donc été perçue par le pouvoir turc comme une forme d'humiliation. Résultat, tous deux membres de l'OTAN, les États-Unis et la Turquie, se retrouvent en désaccord complet et frontal. Alors États-Unis et Turquie, jusqu'où peut aller la crise? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. L'un n'est pas avec nous en studio, il est en direct de Grenoble. Jean-Marc Coux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble, justement, chercheur associé à l'IFEA, l'Institut français des études anatoliennes à Istanbul. Et puis vous avez signé un article intitulé « Le président Erdogan signe la fin du modèle turc » paru dans Le Monde diplomatique ce mois d'avril. À mes côtés en studio pour débattre avec vous, Alain Rodier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CF2R, le centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes aussi l'auteur de « Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre » qui est paru en février dernier aux éditions Ballon. Alors avant de s'aventurer sur le terrain complexe du dossier syrien, je voudrais d'abord vous donner la parole pour un petit peu prendre la température. Alain Rodier, vous, comment est-ce que vous qualifieriez les relations aujourd'hui qu'entretiennent les États-Unis et la Turquie? Est-ce qu'elles sont glaciales? Est-ce qu'elles sont dégradées? Est-ce qu'elles sont historiquement mauvaises? Comment vous les qualifiez?
Non, elles ne sont pas bonnes, certes, mais surtout avec la nouvelle administration américaine, on ne sait pas vraiment où Washington va, parce que effectivement, le président Trump est plus que surprenant dans des déclarations qu'il fait à certains moments, et il se contredit ensuite, ou il se fait contredire par sa propre administration.
Et ça, on le voit sur le dossier syrien. Pour vous, c'est ça qui est central dans cette relation aujourd'hui?
Absolument. Je prends qu'un exemple. Cette fameuse livraison d'armes. Bon, les Américains livraient des armes déjà au YPG, mais en réalité, en passant par la coalition, c'est-à-dire que ce n'était pas Washington qui livrait directement au YPG, mais la coalition internationale. Bon, c'est bien sûr une argutie
verbale.
Là, donc il a dit que maintenant on pouvait livrer à peu près tout ce dont le YPG avait besoin. Le Pentagone est revenu sur cette déclaration en étant beaucoup plus prudent, disant qu'il allait fournir des armes légères, des munitions, des véhicules, mais certainement pas des armements lourds, style artillerie et chars de bataille.
Donc des relations mauvaises et en plus qui dépendent de la parole de Donald Trump qui n'est pas très claire sur le dossier syrien.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors Jean-Marc, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous aussi, vous parleriez de relations mauvaises ou vous auriez un autre adjectif à nous donner ce soir?
Je crois que les relations, effectivement, ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas bonnes, comme vous l'aviez signalé, elles étaient déjà mauvaises à l'époque d'Obama. Vous avez bien commencé, d'ailleurs, avec Obama, mais les choses se sont gâtées, notamment lors de son second mandat, et spécialement depuis 2013. Donc, finalement, il faut voir que lorsque Donald Trump a été élu, l'opinion de Recep Tayyip Erdogan, c'était que tout ne pouvait qu'aller mieux parce que on avait véritablement touché le fond avec Obama. Je dirais que les relations ne sont pas bonnes parce qu'effectivement, ou en tout cas, elles sont difficiles, dirons-nous, parce que elles sont finalement dans une période où on voit bien que les deux pays ne sont pas sur les mêmes positions, notamment sur cette affaire syrienne et en particulier sur le soutien au YPG. Mais Je crois qu'il y a quand même l'espoir. Il y a la Turquie entretient encore un espoir. Il faut bien voir que Recep Tayyip Erdogan n'a pas encore eu de rencontre directe avec Donald Trump. Et cela pour des raisons qui sont pas simplement internationales, mais nationales. Vous savez qu'il y a eu un référendum en Turquie et que ça a occupé le devant de la scène jusqu'à la mi-avril.
Et pas seulement en Turquie d'ailleurs.
Oui. Et de surcroît, c'est donc la première rencontre. Et Recep Tayyip Erdogan a exprimé ces derniers jours l'idée qu'une nouvelle plage pouvait encore s'ouvrir. Donc les relations ne sont pas complètement dégradées. Mais s'il est difficile d'y voir clair, et là je vais rejoindre un petit peu Alain Rodier, c'est que effectivement, on a un président des États-Unis qui est très imprévisible, mais on a aussi un président turc et une diplomatie turque qui, ces derniers mois, est particulièrement imprévisible. De là, justement, cette incertitude et l'importance de cette rencontre directe entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan.
Qui aura donc lieu mardi. Alors, je voudrais vous poser une question qui peut avoir l'air simple comme ça, mais pourtant je sais que la réponse est compliquée, mais c'est pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Pour vous, Jean-Marc Roux, les États-Unis et la Turquie, ils sont ennemis ou bien ils font front commun en Syrie? C'est un petit peu des deux, finalement.
C'est difficile de dire qu'ils sont ennemis, puisque je vous rappelle qu'ils sont tous les deux membres de l'OTAN, et que même si la Turquie, au cours des dernières années, a pris une espèce de marge de manœuvre dans le cadre de cette alliance comporte un certain nombre d'obligations, de protocoles militaires avec lesquels elle n'a pas rompu. Ceci étant, dans la crise syrienne, la Turquie a souvent, notamment depuis 2013, pris ses distances avec les positions de ses alliés. Et cela pour des raisons, je dirais, tactiques. Je crois que dans la crise syrienne, la Turquie, finalement, n'a pas défendu de manière générale le point de vue de la coalition. Elle a aussi, parce qu'elle était au contact avec de nouveaux acteurs et non plus avec un État, elle a pris parti, je dirais, dans les querelles et dans les conflits de ces acteurs. Et sa position, qui était au départ finalement de soutenir tous les adversaires du régime syrien à partir du moment où elle a rompu avec le régime syrien, s'est complexifiée à partir du moment où on a eu une émergence effectivement du fait kurde en Syrie. Et très largement, la position se lie de la Turquie se lie au travers aussi de cette montée en force du PYD et des YPG, des milices kurdes et de cette région kurde, du fait qu'il y ait maintenant en Syrie une région kurde autonome. Parce que finalement, une grande partie de l'action de la Turquie a été justement d'empêcher cette montée en force.
Oui, on est passé d'une lutte contre Bachar al-Assad à une lutte contre l'émergence de la question kurde. Sur cette question, Alain Rodier, en fait, que craint au juste Ankara que avec ses livraisons d'armes, cela renforce les alors YPG ou YPG, comme les prononce Jean-Marc Roux, vous l'avez entendu, et qu'ensuite cela se retourne contre la Turquie, puisque ce seraient des armes qui pourraient circuler jusqu'au PKK, donc les Kurdes qui sont sur le sol turc?
Ah mais tout à fait. Le point central pour comprendre la politique de la Turquie, c'est la crainte de la création de ce Kurdistan syrien, le Rojava, comme il l'appelle, qui court tout le long de la frontière turque, et donc il le refuse systématiquement parce que il est évident que le PYD est très proche du PKK. Il suffit de regarder les films et les photos de propagande de ce qui se passe au Rojava. Ce sont les couleurs kurdes, mais également les portraits de Abdullah Öcalan qui trône partout. Donc là, il est vrai qu'Ankara a raison. Le PYD, c'est un cousin extrêmement proche du PKK. Et d'ailleurs, le PKK a très longtemps été soutenu par la Syrie. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais la Syrie a servi de base arrière au PKK pendant de longues années. Et les Kurdes syriens sont très proches des Kurdes turcs. Par exemple, ils sont plus proches des Kurdes turcs que des Kurdes irakiens. Et donc, quand on parle des Kurdes comme une entité unique, on se trompe. En réalité, les Kurdes, ce sont des populations qui sont différentes.
L'unification kurde, c'est pas si simple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette question, Jean-Marc Roux? Est-ce qu'effectivement, les craintes des Turcs sont justifiées? C'est ce que vient de nous dire Alain Rodier.
Oui, enfin, effectivement, ces craintes se basent effectivement sur les liens politiques qui existent entre le PYD et le PKK, et qui en fait une sorte de branche syrienne, en réalité, du PKK, mais aussi des liens culturels et linguistiques, c'est-à-dire que, effectivement, les Kurdes syriens parlent majoritairement la même langue que majoritairement les Kurdes turcs, et puis il y a des liens même historiques, parce qu'une partie de ces Kurdes syriens sont venus au moment, dans les années 20, au moment de Turquie, en fait, au moment de la répression de la révolte de Cheikh Saïd. Donc il y a une sorte de symbiose qui est assez forte entre les deux côtés de la frontière, entre Kurdes des deux côtés de la frontière.
Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Kurdes ont évidemment en deuxième objectif, il y a d'abord la lutte contre Daesh, en deuxième objectif cette volonté de créer le fameux État du Rojava? C'est déjà exprimé?
De fait, ce quasi-État existe. Il s'est proclamé, en fait, c'est autoproclamé comme fédération démocratique. D'ailleurs, il fait référence à des modes de gestion. Ce qui est intéressant, néanmoins, et c'est là où la géopolitique kurde se complexifie, c'est qu'en réalité, les Turcs n'ont pas eu vis-à-vis des Kurdes syriens, pour les raisons que l'on mentionnait tout à l'heure, le même type de relations que les relations qu'ils ont pu nouer, et notamment depuis 2007-2008, avec le gouvernement régional kurde d'Irak. Et cela explique aussi ce conflit et ces alliances tactiques, puisque les relations, comme vous le savez, depuis 2007-2008, avec les Kurdes irakiens, ont été des relations de coopération forte, pas seulement dans le domaine politique, mais également dans le domaine énergétique, et que de surcroît, les Kurdes irakiens et Kurdes syriens n'ont pas de bonnes relations, en tout cas les organisations qui gèrent en réalité ces deux quasi-États qui existent dans le nord de la Syrie et dans le nord de l'Irak. Et donc, ces tendances au sein même des Kurdes, justement, complexifient les relations, justement, entre Kurdes, mais aussi entre la Turquie et les Kurdes. Même si on doit observer que depuis le dernier printemps kurde, les relations entre Kurdes irakiens et la Turquie sont beaucoup moins bonnes qu'auparavant, justement parce que les Kurdes irakiens ont à nouveau des velléités de proclamer leur indépendance.
Alors, vu les réticences turques manifestement justifiées, c'est ce que vous nous avez tous les deux dit, comment est-ce qu'on peut expliquer cette décision américaine finalement d'aller contre la volonté turque? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui les forces kurdes syriennes sont les seules à pouvoir gagner du terrain dans la bataille vers Raqqa, puisque c'est ce qui se passe en ce moment à la Rambie?
Alors, militairement parlant, certainement. Maintenant, je ne suis pas certain que les Kurdes syriens souhaitent progresser encore longtemps, et en particulier prendre Raqqa. Bon, c'est un objectif.
Pourquoi ne le souhaiteraient-ils pas?
Parce que ce n'est pas leur zone de peuplement. Et leur objectif à eux, c'est pas de lutter contre Daesh ou de lutter contre d'autres mouvements, c'est de créer ce Kurdistan soit indépendant, soit autonome, on peut donner n'importe quelle appellation ensuite comme on veut, mais c'est leur objectif prioritaire. Et d'ailleurs, ce Rojava, il est coupé en deux à l'heure actuelle par l'armée turque et des mouvements rebelles qui lui sont associés, mais grâce au...
D'ailleurs, un peu pour contrer l'avancée kurde, hein, que la Turquie est entrée au sol à l'été dernier.
Une continuité territoriale. Ils avaient déclenché à l'été 2016, effectivement, l'opération bouclier de l'Euphrate, et ils ont pris une partie de la frontière. Mais Il ne faut pas oublier les autres acteurs que sont les Russes et les Iraniens, et là surtout les Russes, qui eux aussi soutiennent et Bachar el-Assad et les Kurdes d'un autre côté, et c'est grâce aux Russes que maintenant tout le Rojava est réuni en réalité par une route qui passe au sud de la position tenue par les forces turques, et donc le Rojava existe dans les faits maintenant.
Et la Turquie s'est justement rapprochée, alors à la faveur d'un refroidissement avec les États-Unis, plutôt de la Russie. Jean-Marc, sur cette question de la performance sur le sol, sur le terrain militaire des milices kurdes en Syrie, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alain Rodier ?
C'est-à-dire que, effectivement, parmi les opposants en Syrie, les Kurdes des YPG sont sans doute et plus généralement cette alliance qu'ils ont constituée avec des forces rebelles arabes syriennes laïques et qui sont rassemblées dans ce qu'on appelle les Syrian Democratic Force, ce sont effectivement les plus performants.
Pourquoi ? Parce que la connaissance du terrain ?
Oui, et puis parce qu'ils ont une expérience du combat, et puis parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à opposer. L'armée libre syrienne, qui a été littéralement accompagnée par l'armée turque pour mener cette opération le long de la frontière entre les deux zones kurdes, soutenue par l'armée turque, qu'on a appelé l'offensive bouclier de l'Euphrate, l'opération bouclier de l'Euphrate, a bien montré que l'ASL, justement, avait des performances militaires qui étaient mauvaises. Mais je dirais que l'alternative à une offensive des Kurdes n'est pas véritablement l'armée libre syrienne, mais c'est l'armée turque elle-même qui a revendiqué justement d'ailleurs de pouvoir mener cette opération sur Raqqa.
Et alors, que va demander Recep Tayyip Erdogan sur la question demain à Donald Trump, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il peut obtenir ?
Au départ, bon, il avait demandé de pouvoir mener l'opération bouclier de l'Euphrate, mais comme on a pu le dire, cette opération a été bloquée en réalité par une sorte de jonction entre les troupes du régime syrien et une région qui est tenue par les Kurdes syriens. Donc cette opération est menée par les Turcs à Raqqa est impossible parce qu'il faudrait que l'armée turque franchisse des zones qui sont en réalité tenues par des alliés de la Russie
et des États-Unis. Il va obtenir
donc
quoi ?
Probablement,
il va jouer
ça, il ne l'obtiendra pas. En revanche, ce qu'il va essayer d'obtenir, c'est probablement un soutien américain limité aux YPG, c'est-à-dire notamment que les YPG ne s'installent pas sur les zones qui seront libérées par Daesh. Ce qu'il avait déjà un petit peu tenté d'obtenir dans la région de Manbij, qui a été libérée justement par les Kurdes syriens l'été dernier.
Pour ne pas modifier les équilibres ethniques.
Pour ne pas modifier les équilibres ethniques. Je dirais accroître la force justement des Kurdes sur la frontière turque.
Alain Rodier, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est sur ce genre de choses que ça peut se jouer demain à la Maison Blanche ?
Oui, certainement. Bien sûr, ça va être des discussions qui vont aller très loin, mais je ne crois pas qu'ils vont tomber d'accord. Et Erdogan menace d'intervenir militairement plus en avant, que ce soit d'ailleurs en Syrie et que ce soit en Irak. Mais deux choses, à ce moment-là, ça sera une intervention sur un territoire étranger, d'une force régulière, et là, ça pourrait être très mal pris. Et deuxième chose, il faudrait tout de même revenir un peu sur l'état des forces armées turques qui sont à l'heure actuelle décapitées depuis le coup d'État de l'année dernière. Et donc là, je doute personnellement que l'armée turque ait une capacité opérationnelle qui lui permette une opération de très grande envergure que Erdogan appelle peut-être de ses voeux.
Merci beaucoup. Réponse donc demain avec cette rencontre entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan à la Maison Blanche. Merci à nos deux invités. Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble, qui était en direct de Grenoble. Nous vous remercions énormément. Alain Rodier, directeur de recherche au CF2R, auteur de Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre. Merci également à Valentin Vanner, à Florence Ponce et au service de la documentation. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat.